Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Léquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
Et si nous vivions avec plus de sécurité intérieure et en pleine confiance avec l'aide de notre système nerveux autonome? Mon invité va nous montrer que nous pouvons rééduquer notre nerf vague pour vaincre sa timidité, le manque de confiance en soi ou le syndrome d'imposteur et retrouver une belle sérénité naturelle. Pour lui, nous sommes nés pour être en lien et en sécurité dans ce monde. Ancien sportif de haut niveau en rugby, puis préparateur mental pour sportifs de haut niveau, il se forme à divers outils comme la cohérence cardiaque et devient coach certifié en neurosciences appliquées. Grand timide au départ, avec un syndrome d'imposteur, il entreprend une quête pour s'en libérer et se forme à la théorie polyvagale. Il propose depuis des formations en pleine confiance, thème de notre podcast d'aujourd'hui. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Ludovic Leroux. Bonjour Ludovic.
Bonjour Anne, ravie d'être là avec toi.
Écoute, moi, c'est un sujet qui me passionne parce que, pour plusieurs raisons. Un, parce que je trouve que le nerf vague, le sujet du nerf vague est en train vraiment d'émerger en ce moment et de la théorie polyvagale, etc. Donc, on a toutes et tous envie, évidemment, d'en savoir plus. Et puis, moi, je dirais que je suis un peu comme toi. Et encore aujourd'hui, par certains aspects, j'aurais beaucoup de mal à monter. Je l'ai eu à le faire dans mon métier de nombreuses fois. Mais j'ai du mal à monter sur une scène, je manque de confiance en moi et je pense que je suis pas la seule, hein, dans celles et ceux qui nous écoutent, prendre la parole en public, se présenter, tout ça, souvent ça reste un challenge. Alors j'imagine que toi, dans tes coachings, tu rencontres beaucoup de personnes qui ont ce type de problématiques.
Oui, bah déjà, ça a commencé par moi. Ouais. Donc, mais en même temps, on est tous des êtres humains, des êtres instinctuels et se montrer devant un groupe d'humains, comme un troupeau de prédateurs, on ne sait pas, c'est normal que ça fasse peur. Mmh. Et finalement, moi, ce que j'ai découvert, c'est que, montant sur scène, j'avais qu'une envie, c'est de me protéger plutôt que de m'amuser. Et on est tous comme ça. On monte sur scène, on a peur de parler devant les gens parce qu'on a peur que les gens voient ce qui nous sommes. Parce qu'on passe son temps à se protéger. Mmh. Donc, tout d'un coup, c'est comme si une souris se montrait devant des chats. C'est pas naturel, c'est pas normal.
Ouais.
Et c'est pour ça que les gens ont ce syndrome-là, cette peur. Et encore, je vois dans mes formations où quand ils se présentent les uns après les autres, au début, on sent dans la voix, alors qu'on est dans un environnement sympa, tout le monde est bienveillant.
Sécurisé.
Et même là, on a cette appréhension. Mm. Moi, c'est pareil, hein, au tout début, les 2-3 premières secondes, j'ai ce système justement de protection qui s'active.
Ouais.
Et puis finalement, ça passe beaucoup plus vite que des personnes justement qui n'osent pas vraiment se lancer.
Est-ce que tu le sentais, au début de l'interview, avant d'arriver, qu'il y avait un peu de stress qui montait? Alors, track est bon, hein, d'ailleurs.
Oui, ouais. Mais bien sûr. Alors aujourd'hui, j'arrive à le réguler. Mm. C'est-à-dire que j'arrive à le transformer très rapidement. Et notamment, je le transforme en jeu. Parce que il y a 2-3 ans, je serais rentré et je me serais dit mais où je suis, attention, qui c'est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va me dire. J'avais envie de savoir les questions à l'avance, toi, des choses comme ça, et pour me sécuriser. Mmh. Et Aujourd'hui, à travers justement cette pleine confiance, la théorie polyvagale, le nerf vague, j'ai plus besoin de l'extérieur pour me sécuriser. J'arrive à le faire de moi-même, de l'intérieur,
oui.
Comme si j'étais entre amis et que je craignais rien. Quoi.
Oui. Et on va y revenir évidemment longuement. Alors pour revenir un petit peu en arrière, tu dis que pendant 40 ans, tu as vécu avec ce syndrome hein, de ne pas te sentir important et que inconsciemment, tu as adopté un comportement d'être timide, discret, hein, tu parlais de la souris, pour pas que la lumière soit dirigée vers toi.
Oui. En fait, c'est un ami qui s'appelle Rémi Tremblay qui m'a posé une fois cette question. Il m'a dit, quelle est ta souffrance préférée ?
Et finalement, c'est bon ça comme question.
Et finalement, tout de suite, ce qui m'est venu, c'est de pas être important. C'est ça qui me fait le plus peur et qui peut me faire souffrir. Parce que depuis le début de mon enfance, en fait, je me sentais comme ça, pas important. Comme si ce que j'avais à dire, c'était pas intéressant. Les gens, ils avaient pitié de moi pour des fois être amis. Hein, j'avais vraiment cette perception que finalement, j'avais pas beaucoup de valeur. Et c'est ça qui m'a amené, en fait, à adopter un comportement de timide. Parce que mon système nerveux, lui qui me protège, il va dire « Attends, on a une super solution, tu vas être timide, tu vas pas parler aux gens, comme ça personne va se rendre compte que t'es pas important. »
Ouais, c'est intéressant hein, les mécanismes qu'on arrive à mettre en place. C'était un peu la blessure de la honte, tu rejoins ça à la blessure de la honte dans les cinq blessures.
C'est intéressant ce que tu dis parce que la honte fait partie justement de ce système de protection.
Ouais.
La honte, la victimisation, si on a vécu des humiliations, des choses comme ça qui font que tout d'un coup, le fait de parler aux gens et que les gens ne s'intéressent pas à nous, ça va nous renvoyer cette honte et ça va nous remettre vraiment dans cet état-là.
Oui.
Donc oui, c'est complètement lié.
À quel moment tu décides dans ton parcours d'entreprendre cette quête pour vaincre cette timidité et tu te dis là, basta, il y en a marre?
Alors la première chose, c'est première quête, c'est à travers le cerveau. J'ai entendu le cerveau, tout est là. Donc finalement, j'y vais. Et c'est comme si je retrouvais que le bout de la chaîne. Il me manquait une pièce. Et finalement, c'est l'instinct en fait qui m'y a amené parce que j'ai été amené à faire une formation, ma formation en théorie polyvagale avec des ostéopathes. Moi, j'étais coach. Au départ, j'avais rien à faire là, mais je sais pas. Je le ressentais. Et finalement, c'est là où j'ai découvert cette science, ces connaissances qui m'ont permis de prendre conscience avec les outils pour passer ensuite à l'action.
Et c'est là où tu dis que tu découvres d'ailleurs que cette timidité, elle n'existe pas. Hein, c'est une construction et que c'est pas dans la tête que ça se passe justement. Toi, qui t'intéressais à la tête,
oui.
Tu te rends compte que ça se passe dans le corps.
Ben oui, c'est ça. C'est en fait souvent, je dis ça aux gens. Je dis peut-être si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, c'est que vous cherchez au mauvais endroit. Et finalement, l'étymologie de timide, c'est craintif. Et moi, j'étais craintif. Et c'est mon corps, hein, ça on l'apprend en neurobiologie, c'est le corps qui capte sans arrêt les signaux d'insécurité ou de sécurité. Et ensuite, envoie au cerveau. Mais nous, on a conscience que de ce qui se passe dans la tête, nos pensées, nos émotions. Finalement, on croit que ça se passe ici, alors que c'est juste le relais du corps.
D'ailleurs, c'est marrant parce que quand tu dis être craintif pour un ancien athlète de haut niveau en rugby, quand on entend ça, on se dit bah c'est pas possible.
Oui, alors j'avais remarqué ça, c'est-à-dire que je faisais du rugby et finalement, quand j'étais sur le terrain, j'étais plus du tout craintif. Et en fait, si je reviens en arrière, c'était mon corps qui jouait et ma tête elle était pratiquement plus là.
Oui.
Et je me rappelle même une fois une anecdote où le meilleur match de ma vie, c'était le match où j'étais le moins réveillé. Comme si mon mental avait disparu, c'était juste mon corps qui jouait.
Ouais, t'étais dans le flow, comme on pourrait dire,
ouais,
comme on dit en neurosciences.
Ouais, on était dans le flow et aujourd'hui, justement, j'aime bien dire ça, j'amène les gens du flou au flow. Parce que du coup, voilà, ce flou, je ne sais pas qui je suis, ce que je veux faire, etc., pour l'amener vers quelque chose qui est beaucoup plus de l'intelligence instinctuelle et que moi je rapproche au flow. Ouais.
Passer du flou au flow, quelle belle citation là pour métamorphose, je sens qui aimons les citations. Alors qu'est-ce que tu as découvert en neurobiologie, qu'est-ce que c'est et aussi qu'est-ce qu'un coach certifié en neurosciences? Parce que comme ça, ça peut faire un peu, un peu perché ou on ne sait pas trop ce que c'est.
Alors au départ, le coach certifié en neurosciences, c'est vraiment la connaissance des mécanismes du cerveau. Pour comprendre ce que c'est qu'une croyance, une pensée, une émotion, afin de pouvoir ensuite agir dessus. Et la neurobiologie, c'est le cerveau en lien avec le corps. C'est-à-dire qu'on va un peu plus loin, puisque 80% des informations vont du corps au cerveau et seulement 20% du cerveau vers le corps. Quand j'ai su ça, j'ai dit, ce serait peut-être intéressant, moi qui m'intéresse au cerveau, d'aller voir d'où viennent ces 80% d'informations. Et ces informations passent par le système nerveux. Et c'est de là que la neurobiologie et la théorie polyvagale, je suis allé voir ce qui se passait dans ce système nerveux.
Alors justement, tu parles des états internes, hein, qui influencent à 80% notre cerveau, c'est ça quand tu dis ça ? C'est quand on parle d'état interne, c'est le système nerveux autonome ?
Alors oui, c'est le système nerveux autonome, il a 3 états internes.
Oui.
Et en fait, il passe son temps à capter des signaux de sécurité ou d'insécurité en dehors de notre corps et à l'intérieur de notre corps. Et c'est des milliards d'informations par seconde qu'il capte sans arrêt. Mmh. Il suffit que, ne serait-ce que notre cœur qui bat différemment, à chaque battement de cœur, il y a un signal à travers ce qu'on appelle des mécanorécepteurs qui envoie au cerveau pour savoir si je suis en sécurité ou en insécurité. Et du coup, sans arrêt, on a ces informations-là qui arrivent par le corps et qui passent par le système nerveux qui, lui, va déjà définir si je suis en insécurité ou en sécurité. Et finalement...
C'est le premier filtre ?
C'est le premier filtre, ça va être... les recherches vont encore plus loin, mais le premier filtre, ça va être déjà la cellule avec les mémoires des cellules, etc. Mais déjà, ça va nous permettre ensuite, à travers rien que ce système nerveux, déjà de dire... Est-ce que je suis en sécurité ou en insécurité ? Et finalement, le cerveau reçoit cette information déjà qualifiée pour pouvoir apporter une réponse très rapide en fonction de l'importance de l'information.
Hmm. Alors, comment fonctionne notre système nerveux et quel est le lien justement avec le cerveau ? Et est-ce que c'est ça la théorie polyvagale ? Toi, tu t'es formée, je crois, avec Deborah Dana. Hein,
oui.
C'est ça qui est aujourd'hui un peu la référente au niveau mondial ?
Oui, en fait, Deborah Dana, c'est la, voilà, j'allais dire la commerciale de Stephen Porges. Stephen Porges, c'est lui qui est le chercheur à l'origine de la théorie polyvagale.
Oui, tout à fait.
Et pour ceux qui connaissent la cohérence cardiaque, il a aussi participé beaucoup aux travaux avec EarthMath, une grande entreprise qui développe la cohérence cardiaque. Et Deborah Dana est une thérapeute, du coup, qui a pris la cohérence cardiaque pour la mettre en application au niveau thérapeutique. Et du coup, j'ai été formé par Deborah Dana, justement, pour apprendre ce que c'est la théorie polyvagale. Et théorie polyvagale, c'est quoi ? C'est, avant, on voyait le système nerveux comme 2 branches, la branche sympathique, la branche sympathique, comme un peu l'accélérateur et le frein d'une voiture.
Parasympathique,
oui. Sympathique et parasympathique. Et Stephen Porges, qui travaille sur les traumas, notamment avec Deborah Dana, il s'est dit, on remarque que le parasympathique, donc le frein, il est stimulé avec des personnes qui sont en trauma. Mmh. Donc, c'est bizarre, ils sont pas en train de s'apaiser, ils sont en train, au contraire, de...
Ah, tu peux nous donner un exemple concret de situation ?
Oui, par exemple, quand je parle de trauma, on estime que 80% des gens ont vécu des traumas. Parce que souvent, on pense aux traumas, à des situations traumatiques, mais il y a des chocs traumatiques dans un accident de voiture, dans une opération chirurgicale, le décès d'un proche.
La naissance,
voilà. Donc, du coup, on a tous vécu pratiquement un choc traumatique qui est engrammé dans ce corps. Et finalement, eh bien, si notre réponse pour éviter de retrouver cette souffrance que l'on a vécue, eh bien, ça va être l'inhibition, ça va être au contraire, on va avoir tendance à procrastiner, ne pas passer à l'action. Ce qui fait qu'il y a des personnes timides, hein, c'est que ils se cachent. Et ça, c'est notre parasympathique qui est stimulé, alors que normalement, lui, il est stimulé quand on se sent apaisé. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que il y avait 2 branches dans ce nerf vague. Il y avait ce qu'on appelle la branche dorsale et la branche ventrale. Finalement, cette branche dorsale est stimulée quand, au contraire, quand on a perçu un très grand danger. Et la branche ventrale est stimulée quand on se sent totalement en sécurité. Mmh. C'est ce qui fait qu'on appelle ça la théorie polyvagale, parce que du coup, on a 3 façons de répondre ou de réagir à la vie: en sécurité, en menace avec fuite de combat, ou en grand danger avec cette inhibition.
Alors, la branche dorsale, ça veut dire qu'elle est, elle s'attache où exactement ? Il se trouve où concrètement dans le corps, tiens, pour que ce soit plus imagé ? On mettra peut-être un petit schéma, tiens.
Oui, pourquoi pas, oui. Le nerf vague part de la base du cerveau et de la moelle épinière, et ensuite redescend vers tous les organes. Donc, c'est ce qu'on appelle le nerf errant, parce que c'est le nerf le plus long. Et en fait, la branche dorsale, elle est connectée aux organes en dessous du diaphragme, et la branche ventrale au-dessus du diaphragme. Ce qui fait que des personnes qui parfois ressentent vraiment une grande insécurité ont des problèmes digestifs. Et alors que quand on est en sécurité, au contraire, on va respirer, on va se sentir bien, on va se sentir léger. Et parce que du coup, ces nerfs sont branchés à ce niveau-là.
Qu'est-ce que ça a permis de découvrir au-delà de cette découverte, qui est encore assez peu enseignée en médecine, je crois. Mm-hmm. On parle assez peu de théorie polyvagale chez les soignants aujourd'hui. Qu'est-ce que ça permet de régler comme type de problématique ? Et par exemple, chez les ostéopathes, comment est-ce qu'ils utilisent cet outil ?
Alors, dans la formation dans laquelle j'ai été pour les ostéopathes, ils l'utilisaient en fait pour mettre la personne justement dans un état de ventral, c'est-à-dire en sécurité, afin qu'ils puissent lâcher les tensions pour pouvoir mieux manipuler ensuite le corps. Et nous, dans notre quotidien, eh bien, on va pouvoir s'en servir en étant plus conscient de l'état dans lequel on est actuellement, afin de pouvoir ce qu'on appelle le réguler, le changer. Parce qu'on a les possibilités de changer, de passer d'un état de dorsal à un état de sympathique, et d'un état sympathique à un état de ventral. En plus, c'est que des outils qu'on connaît déjà. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas que ça stimule ce nerf vague. Et ça apporte beaucoup de conscience dans des outils comme la méditation, de la respiration. Et puis surtout, ça apporte de l'organisation. C'est-à-dire comment je vais m'organiser, par exemple, avant quelque chose d'important, pour me mettre dans cet état de sécurité, plutôt que de me laisser surprendre et de retrouver le même scénario qui se passe à chaque fois.
Donc la formation, elle part d'où ? Elle part du ventre ou plutôt du... Elle part de quel endroit ? Elle remonte ou on ne sait pas forcément aujourd'hui
Non, alors ça peut être des sens. Hein, oui. J'ai perçu quelque chose. Donc, par exemple, on écoute de la musique. En fait, il va d'abord avoir une réponse émotionnelle du corps qui va faire que cette musique va avoir un impact par rapport à nos références passées. Et finalement, ça va nous mettre en sécurité ou en insécurité, et ça va apporter une réaction. Bah, ah, j'aime pas ça, par exemple. Donc, en fait, quand je dis ça, c'est que ça me met en insécurité. Je sais pas, il y a quelque chose que j'aime pas. Ça peut être aussi, justement, parler en public. Je vais me retrouver devant les gens. Alors, je l'imagine, comme le cerveau fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, c'est comme si j'étais en train de le vivre. Et finalement, ça fait appel à une référence du passé. Qui va m'amener à une réponse du corps à nouveau en disant attention, ça c'est dangereux. Et finalement, je me sens piégé dans ces états-là d'inhibition notamment, dans lesquels j'ai l'impression que c'est plus fort que moi. Hein. Souvent on dit ça, mais c'est plus fort que moi. En effet, c'est plus fort que moi et je peux pas passer à l'action.
Oui, puis on a beau connaître des techniques diverses et variées, souvent ça fonctionne pas trop, quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'on va tenter de se rassurer aussi, même à travers de la psychologie positive, des fois en disant mais ça va bien se passer. On entend des fois, moi j'ai ma belle-mère qui me dit ça souvent, elle me dit mais il y a pas de raison que ça se passe mal. Moi j'ai dit mais si, moi il y a plein de raisons pour que ça se passe mal. Et finalement, au lieu d'essayer de se rassurer et psychologiquement. Autant créer justement agir au niveau du corps pour pouvoir justement à adapter ce corps là à de la sécurité pour qu'il envoie des informations au cerveau en disant en fait c'est bon, c'est ok, on se sent en sécurité.
Aujourd'hui, on sait que ce nerf vague, il stockerait quelque part des informations, des blessures qui sont engrammées pour pouvoir justement ensuite prévoir. Parce que, en fait, si on est programmé comme ça, au départ, c'était pour la survie. Donc, c'était pour un bien. Hein. Oui. Je dirais que ça, c'est ce qui a conditionné, j'imagine, la survie de l'espèce.
Exactement.
Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus forcément en mode survie. On n'a plus besoin de ce système hyper en alerte. Et du coup, comment ça se passe au niveau biologique ? Ça stocke des informations ? Comment on sait ça ou pas encore ?
Alors, il y a beaucoup de recherches, notamment, qui sont faites au niveau des fascias.
Oui.
Voilà, au niveau des mémoires, notamment. Et comme les fascias, c'est cette pellicule qui est tout autour de nos os, nos organes, nos muscles, et qui est comme un réseau électrique qui, du coup, va communiquer avec ce système nerveux. Il faut prendre le système nerveux comme un réseau de communication. Et au départ, on le prenait que comme de la communication. Mais finalement, cette communication, elle va déjà être qualifiée. Et comme tu le dis, c'est plus un message de survie de notre corps, notre vie ou notre mort qui arrive. C'est un message de souffrance, en fait. Et moi, j'appelle ça notre égo-système. C'est comme si c'était notre ego qui avait kidnappé le système nerveux pour le mettre à son service. Et en fait, on n'a plus peur de mourir. Il y a très peu de situations où on a vraiment peur de mourir. On a peur de souffrir. Et toutes ces souffrances sont engrammées justement dans notre corps. Et chaque critère, chaque petite chose qui ressemble à une mémoire du passé, va réactiver le même fonctionnement de peur. Alors que on n'est pas censé avoir peur à ce moment-là.
Comment est-ce que ça dialoguerait, on peut imaginer, avec la conscience ? On est en train de s'apercevoir de plus en plus que la conscience est non localisée, qu'elle est aujourd'hui délocalisée, que ce n'est pas un produit du cerveau. Comment ça pourrait dialoguer ? C'est un peu compliqué comme question, mais comment ça pourrait dialoguer avec le nerf vague, cette idée de conscience ?
Moi, j'aime bien, en fait, comme on a ces trois nerfs qui sont stimulés, c'est comme s'il y avait, en fait, trois personnages. Comme si on avait trois mondes intérieurs et finalement trois consciences différentes. La conscience du dorsal, c'est-à-dire que dès qu'on va entendre « j'y arriverai pas, je suis nul », ces pensées-là appartiennent à
notre
dorsal, voilà. Et c'est juste en fait une information qui nous permet de savoir dans quel état on est. Mmh. Il y a le sympathique, où allez, il faut que tu y arrives, bouge-toi les fesses, etc., qui va nous amener cette conscience qu'on est en sympathique. Mmh. Et puis, la conscience du ventral, qui est que je me sens bien, je suis en sécurité, et limite, à ce moment-là, je ne me pose même pas la question.
Oui,
si,
il n'y a pas d'alerte, quoi.
Exactement. Mmh. Donc ça, c'est trois consciences. Et la conscience à développer, c'est celle du ventral, parce qu'elle est connectée aussi avec le monde, avec les autres. Et à ce moment-là, il se passe beaucoup de choses, bizarrement. Quand je suis sorti, moi, de la formation, je dis, mais en fait, c'est une formation pour avoir de la chance. Parce que moi, le dorsal dans ma grotte, tout d'un coup, c'est comme si, je prends souvent l'exemple de la caverne de Platon,
oui.
Là où je sors de cette caverne et
mince, découvre le monde, quoi.
Voilà, en fait, il y a plein de choses et j'ai accès à plein de choses. On parle d'abondance et tout ça. Là, tout d'un coup, bizarrement, j'y ai accès. Donc, c'est pour ça que c'est cette conscience-là à développer. Mais pour la développer, eh bien, il faut retourner dans cet état interne de sécurité.
Mmh. Toi, dans ton parcours et dans les gens que tu vois, ça prend vraiment essence dans l'enfance, les blessures de l'enfance, en fait, notre façon dont, finalement, on gère ces trois systèmes.
Oui.
Enfin, on gère de manière automatisée. Hein, en fait,
on ne les gère pas
du tout. Elles nous gèrent.
Ouais, exactement. Elles nous gouvernent.
Elles nous agissent.
Alors, Stéphane Porges, ils ont mis en place des études qui montrent aussi que c'est même transgénérationnel et à la fois aussi de notre enfance. Mmh. Alors, on va s'occuper déjà de notre enfance parce que transgénérationnel, je ne saurais pas en parler plus. Mais rien que dans notre enfance, eh bien, on arrive au monde avec cette capacité à être en lien.
Mmh.
Et finalement, on apprend justement à être en lien avec le monde, avec les autres. Et c'est comme ça qu'on apprend à savoir est-ce que ça, c'est de la sécurité ou de l'insécurité. Et finalement, toutes ces premières expériences vont définir déjà mes premiers comportements. Ça rejoint le lien d'attachement que certaines personnes peuvent connaître. Ou justement, c'est ma façon d'apprendre à créer du lien au monde.
On a fait un podcast, je le dis pour celles et ceux qui nous écoutent, qui voudraient réécouter sur le lien d'attachement avec Marion Blic.
Parfait, ils peuvent réécouter et faire le lien justement, parce que du coup, on a créé le lien avec le système nerveux et selon les différentes catégories, il y en a quatre de liens d'attachement, eh bien, on va plutôt développer notre dorsal ou développer notre sympathique ou développer notre ventral.
Ils sont attachés à des types d'attachement justement.
Oui, ouais, tout à fait. Ouais.
Donc, tu peux nous les dire comme ça rapidement.
Ouais. On a un premier lien d'attachement qui va être organisé en sécurité.
Oui.
Donc, c'est-à-dire, on me voit, on m'entend. Donc, je me sens en sécurité dans ce monde. Et ça va plutôt développer, justement, ma capacité à être en ventrale, à être en sécurité. On a ensuite organisé ambivalent, où là, des fois, je suis bien, des fois, je suis méchant, je sais pas trop. Ça dépend des fois. Des fois, c'est papa ou maman, ou des fois, c'est à l'école et à la maison. Et du coup, je ne sais pas qui je suis, j'ai besoin des autres pour savoir qui je suis. Et finalement, eh bien là, c'est mon système sympathique parce que j'ai besoin de savoir.
Du référent extérieur.
Exactement, ouais.
C'est aussi ce qu'on appelle le chaotique ou la chaotique.
Ouais, exactement, ouais. Ensuite, on a l'organisé qui, lui, va être très isolé.
Mm-hmm.
Donc, c'est-à-dire qu'on laisse l'enfant régulièrement seul. Et finalement, ça va développer chez lui du dorsal. Parce qu'il s'est habitué à être isolé, à être seul, et il ne fait pas confiance aux autres, et il ne fait pas confiance à lui-même non plus.
Donc toi, tu dis que tu étais plutôt là-dedans.
Ouais, exactement, ouais. Et puis, il y a le dernier qui est désorganisé, où là, ça change constamment. Et là, il ne peut pas faire confiance aux autres, pas à lui-même. Enfin, il passe d'un état à un autre. C'est très dérégulé, en fait, son système nerveux. Et du coup, ça dépend vraiment de phases, de moments. Mais il fait pas confiance, en fait, aux gens. Parce qu'il n'a pas appris, justement.
J'imagine que les personnes entre elles ont tendance à s'attirer en fonction de leur polarité polyvagale, on pourrait dire.
Exactement, ouais. Alors, ce qui est génial, c'est que toutes les personnes aussi qui représentent la sécurité, qui sont plutôt en ventrale, eh bien, vont pouvoir attirer aussi des gens en ventrale.
Oui.
Par contre, oui, tous ceux qui sont un peu en sympathique, là, qui sont hyperactifs, speed, ils vont avoir du mal avec le dorsal, parce que lui, il est mou, il est lent, il se cache, il parle
pas
beaucoup.
Dans sa grotte, ouais.
Voilà, ouais.
Exactement.
Et puis moi, qui étais plutôt de nature dorsale, quand j'allais dans des networking et tout ça, inconsciemment, je recherchais des copains dorsales aussi pour qu'on aille tous les deux dans la grotte et parler doucement entre nous, quoi. donc oui, c'est sûr qu'on va aller chercher ce qui nous rassure et ce qu'on connaît.
En même temps, le ventral, il est rassurant pour tout le monde.
Oui, le ventral, c'est le seul état où la personne va pouvoir aussi voir la détresse chez l'autre. Donc c'est le seul état où on va pouvoir justement s'intéresser vraiment aux autres sans intention particulière. Alors que les autres, on a tendance à se protéger. Donc l'autre, on se coupe. Et le sauveur, en fait, finalement, c'est ce qu'on appelle du sympathique fuyant. Mmh. C'est-à-dire qu'il va... le sympathique fuyant, c'est toutes les personnes qui ont besoin de s'évader pour se sentir en sécurité. Mmh. Moi, j'appelle ça des dreamers.
Ouais, c'est les high, quoi.
Ouais, voilà. Ouais, et du coup, le développement personnel, le spirituel est très bien pour ça.
C'est les perchés, quoi.
Ouais. Et en fait, ils y vont parce qu'à ce moment-là, ils se sentent déconnectés de leur souffrance. Mmh. Donc, ils n'ont pas besoin de les régler. Et finalement, le problème, c'est que ça avance pas non plus.
Oui, c'est bloqué aussi dans une forme de système.
Oui, c'est un mécanisme de protection.
Donc, on pourrait dire, quand on entend que le ventral, enfin, quand on entend la théorie, que le ventral, c'est celui qui est le plus équilibré, quelque part, qui est bien dans ses pompes, ouvert sur le monde, et que c'est ça qu'on cherche comme état.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux mots-clés en ventral, c'est en lien et en sécurité. Donc, je suis en sécurité, donc ce qui me permet de pouvoir faire ce que j'ai envie. Parce que souvent, la confiance, on a tendance à la relier à ce que je me sens capable de faire. Finalement, je suis capable de faire plein de choses, c'est juste que je suis pas dans le bon état pour le faire. Et le lien, eh bien, c'est cette capacité à être connecté avec moi-même, les autres et le monde. La vulnérabilité, la joie, l'amour, la compassion, ce sont que des ingrédients qui appartiennent à l'état du ventral.
Pour les ventrales, on a une idée un peu de la représentation de la population en fonction du type.
Alors, moi, j'ai fait un test dernièrement. Mmh. J'ai eu 9000 réponses.
Ah, c'est un bon quanti,
ah, oui.
Ça. Bravo.
Sur, justement, les mécanismes de protection. Alors, j'avais enlevé le ventral. Mais, du coup, j'ai...
Pourquoi?
Parce que je voulais, en fait, voir dans quel état étaient coincés les gens. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ça. Et que les gens se reconnaissent tout de suite en disant « Ah oui, moi, c'est exactement ça.
Ouais. »
Parce que du coup, ils vont être dans ce qu'on appelle une homéostasie de survie. C'est-à-dire que dès le matin, ils appuient sur un bouton et hop, je suis dorsal tout au long de la journée.
Oui.
Alors qu'une personne, même si elle n'est pas timide, elle peut être intimidée par une personne. Mais en général, peut ne pas être timide. Et sur ces 9000, alors j'ai été un peu surpris par le résultat, mais il y en a 55% qui étaient des dreamers. Donc des sympathiques fuyants qui recherchent une solution, qui recherchent à s'évader, justement. Alors, c'était plutôt un public de développement personnel.
Oui, donc il y avait un biais quand même par rapport à ça.
Et du coup, voilà, des personnes qui recherchent des solutions. Et il y avait 25% de fighters, donc des personnes qui sont sympathiques et agressives, qui veulent se battre, go. Mm. Et puis 20% de ce que j'appelle moi des hiders, des personnes qui se cachent. Alors, je me dis, peut-être les hiders, ils n'ont pas voulu répondre au test, ils sont cachés, justement. Mais on estime, en fait, à 85% de la population qui vit dans des mécanismes de survie. Pratiquement en permanence.
Ouais.
Et du coup, 15% de personnes qui seraient en pleine confiance.
Ça match avec des cartographies type Ennéagramme. Vous faites des recoupements comme ça avec des types de design. Je pense au design thinking aussi.
Alors, du coup, moi, comme je ne suis pas formé à l'Ennéagramme et que, ouais, je coach et je forme les gens à la TPV, et bah, du coup, il y en a qui commencent à venir me voir en me disant « Ah, on pourrait faire de liens ». Donc, c'est en train de se faire,
ouais,
justement, pour pouvoir voir là, les liens que l'on peut faire. Et c'est vrai qu'il faudrait prendre le temps, parce que je pense qu'il y a plein de liens à faire.
Oui, c'est... Bon, après, ça reste des états de définition. L'idée aussi, c'est évidemment de pouvoir en sortir si on n'est pas bien.
Ouais.
Et donc, c'est ça aussi que tu proposes à travers tes formations et tes coachings. Avant d'en arriver vraiment aussi aux solutions, j'aimerais que tu nous parles de ce que tu appelles jouer avec les différents niveaux de confiance.
Ouais.
Ça m'a intrigué, ça.
En fait, on a justement... Des niveaux de confiance différents dans la mesure où...
C'est ça les états internes de survie aussi, ce que tu appelles...
Oui,
c'est la même chose, hein.
Ouais, c'est-à-dire que, en étant, par exemple, je vais prendre quelqu'un qui est plutôt sympathique, agressif, donc voilà, qui parle fort...
Quand
qui
on
est,
dit sympathique, c'est le
c'est
système...
C'est le nerf sympathique,
ouais. Parce que toi, t'es habitué dans ton langage,
oui.
Mais c'est pas une personne sympa, forcément.
Pas forcément. Mais ça va être si on compare aux animaux, ça va être le lion, l'ours. On voit, voilà, son mécanisme de survie.
Le félin, quoi.
C'est un prédateur, exactement. Donc il faut qu'il se montre fort. C'est comme ça qu'il se sent en protection. Et du coup, lui, il va être en confiance en étant de cet état-là.
Mm.
Parce qu'il maîtrise cet état-là. Par contre, si on lui dit, tu vas te poser, faire une méditation. Tu vas respirer tranquillement et il va dire non, mais moi, j'aime pas ça, ça m'énerve.
Je perds du temps, quoi.
Oui, parce que moi, là où je suis en confiance, c'est dans cet état où je bouge, je suis actif. Et du coup, ça, c'est le premier niveau de confiance, en fait. C'est l'état dans lequel je me sens le plus en confiance, mais en fait, le plus en sécurité. Mmh. Le dorsal, celui qui est plutôt en retrait, en repli, lui, il va se sentir en sécurité quand il est chez lui, tranquille, tout seul. Voilà, c'est son état de confiance, entre guillemets, mais c'est sécurité plutôt. Et puis, il y a un deuxième niveau de confiance qui est le ventral. D'aller en ventral et de se dire bah tiens je me sens en sécurité et puis je peux faire pas mal de choses, je me sens en lien et ça c'est le deuxième niveau qu'on peut découvrir quand on sort de sa grotte ou qu'on sort de son armure justement. Et dans lequel on va se dire mais tiens je peux être en lien avec les autres. Et le troisième niveau de confiance c'est je peux être en lien avec les autres mais je peux aussi mettre à mon service le sympathique. Je peux mettre aussi à mon service le dorsal, c'est-à-dire que c'est moi qui choisis quand je m'active. Et du coup, je choisis de m'activer en sympathique, ou c'est moi qui choisis quand j'ai besoin de repli, quand j'ai besoin de me poser. Et du coup, c'est là où je suis en pleine confiance, parce que j'utilise tous mes états en fonction de ce qui se passe, de ce que je reçois. Hein, le nombre de personnes qui s'épuisent à s'activer, et pourtant ils ressentent les informations, hein, mais ils les écoutent pas ou ils les entendent pas. Et du coup, c'est pour le corps, c'est de la méfiance. Je vais me méfier de moi, je lui envoie toutes les infos, il répond pas.
Ouais. Mais c'est marrant parce que en t'écoutant, je pense évidemment, j'ai dit le design thinking tout à l'heure, je me suis trompée, c'est le human design sur lequel j'ai fait aussi un podcast qui a aussi des calques avec des types de personnalités. Et c'est vrai que le système que tu décris, c'est le système des générateurs-manifesteurs, qui est un système qu'on appelle très énergétique et qui est capable, mais à l'épuisement de soi, mais de tout le temps être en mouvement. Voilà, ça dépote, et il peut pas aller se coucher tant qu'il a pas. C'est comme s'il se levait le matin avec une jauge qui est à 100 et si la jauge, voilà, elle n'est pas à zéro le soir, il ne peut pas aller se coucher, quoi. Il faut qu'il y aille. C'est un peu ça.
Ouais, c'est ça. Et en plus, souvent, c'est des gens qu'on perçoit comme étant des personnes en confiance, hein, parce que du coup, ils s'activent, ils font des choses. Et c'est déjà bien, c'est déjà une première étape qui est bien, parce que le corps a besoin de mouvement. Maintenant, moi, parfois, je remarque que c'est de la procrastination active, j'appelle ça. Procrastination active, c'est que je vais m'occuper.
Ouais, c'est un peu de l'agitation, non?
Oui, c'est ça, ouais. L'agitation, mais parce qu'on est agité dans le corps, et que du coup, bah, ça crée de l'agitation. C'est comme si il fallait tout le temps faire attention, en fait.
Ouais.
Donc du coup, j'ai tous les sens, les yeux grands ouverts, je cours partout, je fais ceci, je fais cela. Mais finalement, est-ce que je suis efficace? Et surtout, est-ce que j'arrive justement, avant que la jauge soit à zéro, eh bien, de pouvoir dire stop, tiens, je vais me prendre du temps pour moi. Ouais. Par exemple, souvent, ils savent pas se reposer. Ils sont en vacances, ils travaillent.
C'est les hyperactifs, quoi.
Ouais, exactement. Mais c'est un conditionnement aussi de leur système nerveux qui dit, mais mon coco, t'as pas le droit de te reposer parce que si tu te poses et que tu fermes les yeux, tu vas te faire bouffer. Donc c'est l'instinct qui parle et qui dit non, tu dois toujours être actif, comme on peut voir des animaux qui alors je vous le dis, elle est en train de se montrer du doigt pour dire c'est moi.
Je lui fais des signes, il me décrit là.
et comme les animaux, voilà, qui entendent un bruit et ils sont plus intelligents que nous, hein. Ils entendent un bruit, une gazelle dans la savane, elle lève la tête, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle aperçoit qu'il n'y a pas de danger et hop, elle va recommencer à brouter. Alors que nous, c'est comme si, et tout le temps un bruit. Qui faisait que attention, attention, attention.
Donc ça, c'est épuisant. Alors, quand tu décrivais les différents états, cette circulation des différents états, c'est marrant parce que ça fait presque penser à un espèce de jeu, comme un jeu vidéo, où en fait, en connaissant ce fonctionnement et les mécanismes, tu peux naviguer, circuler, bouger d'un état à l'autre très facilement. C'est ça que tu fais aujourd'hui?
Ouais, c'est ça. C'est pour ça que, quand je disais les trois niveaux de confiance, la pleine confiance, c'est d'être autant en confiance en ventrale que quand je choisis le sympathique et que quand je choisis les dorsales. Mais pour ça, il faut bien les connaître. Il faut savoir ce que c'est chez moi le dorsal. Il faut savoir ce que c'est chez moi le sympathique. Et aussi, bah, surtout dans un premier temps, ce que c'est le ventral. Et pas seulement au niveau psychologique, au niveau de mon corps. Les sensations que je peux avoir, les sentiments que je peux avoir, les types de pensées que je peux reconnaître. Et c'est la première étape, en fait, c'est reconnaître. Est-ce que j'arrive à reconnaître mes états? Et ça, c'est la première étape du travail que l'on fait.
Alors, comment on fait pour faire ce travail, justement? Ça passe par quel type de processus?
Alors, ça passe par, comme je disais, par plein de choses qu'on fait déjà. Mais par contre, on va le faire avec la conscience de mes états. Donc, on fait notamment un exercice qui s'appelle la carte personnalisée, où j'emmène les gens pendant 10 minutes dans une visualisation en prenant des situations de dorsale. De toute façon, on a tous vécu hein, une situation de dorsale où j'ai baissé les bras, où j'en avais marre, je pensais que j'allais pas y arriver. Et du coup, on va identifier à ce moment-là qu'est-ce que je ressens, quels sont les types d'émotions, quel type de pensée je peux avoir à ce moment-là. Et puis, on va faire la même chose avec le sympathique et puis avec le ventral. Mmh. Et ensuite, on va utiliser des techniques comme la cohérence cardiaque, comme de la méditation, de la visualisation, qui vont stimuler ce vagal ventral. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens, quand ils font ces exercices, c'est pour justement se sentir bien pendant un moment. Nous, on le fait différemment, c'est-à-dire qu'on le fait pour stimuler son ventral. Et une fois qu'on est en ventral, eh bien, on va pouvoir justement aller à la rencontre de nos souffrances, à la rencontre de notre sympathique, à la rencontre de cette partie de moi qui dit « j'y arriverai pas ». Et c'est en créant des liens comme ça, avec ces états, qu'on arrive justement à se faire confiance, comme s'il y avait trois personnages en nous et qu'on allait créer, on faisait des team building pour créer la super équipe.
Ouais, c'est ça. Et là, on retrouve ton mental aussi de coach, de préparateur physique.
Ouais, c'est ça, voilà.
C'est ça. Mais c'est vrai que, en combien de temps ça se fait, ce processus, couramment?
Alors, ça peut aller
toi,
plus
par
ou moins.
Exemple, ça
peut Alors, moi, ça a été très vite. C'est-à-dire que j'ai fait en février 2018 la formation et ça faisait 2 ans que je voulais écrire un livre. Enfin, j'avais déjà commencé, j'avais écrit 3 chapitres. Et alors c'est un livre sur le golf, la préparation mentale dans le golf.
Et tu es devenu golfeur, hein, tu le disais
oui,
en antenne.
Oui, exactement. Ouais. Et j'ai beaucoup accompagné en préparation mentale des golfeurs et j'avais fait un livre et j'avais fait 3 chapitres pendant une semaine. Et j'adore écrire. Et puis, je ne savais pas pourquoi, alors ça c'était avant la théorie polyvagale, je ne savais pas pourquoi, mais tout d'un coup, j'ai trouvé plein d'excuses pour ne pas écrire. Et pendant 21 mois, je n'ai pas écrit. Et en sortant de la formation, je ne sais pas, en me mettant justement ventral, hein, en ayant ne serait-ce que cette conscience, que c'est qu'un état, ce n'est pas mon identité, ce dorsal, et que moi aussi j'ai un ventral, que tout le monde a ce nerf vague ventral, eh bien, j'ai écrit le livre en 3 semaines, tout le reste.
Ouais, ça a jailli.
Et sorti début avril, après, sur Amazon, je me suis auto-édité. Et après, c'est un entraînement. Et ce qui est génial, c'est qu'on change des milliers de fois par jour. Et notre quotidien, eh bien, c'est notre terrain d'entraînement, en fait. Et à chaque fois que je suis dans la rue, je me pose des questions, parce que du coup, je suis beaucoup plus connecté avec mon corps.
Oui.
Et je ressens de l'insécurité. Quelqu'un qu'on croise qui est louche. Des choses comme ça.
Oui.
Tout à l'heure, c'est ça. J'ai croisé quelqu'un qui était louche. Et puis finalement, c'est hey, calme-toi, il n'y a rien, il ne se passe rien. Ou écarte-toi si tu veux un petit peu. Mais ne pas vivre comme ça en permanence avec cette insécurité. Et aussi, moi, ce que je fais beaucoup, parce que ça m'a aidé en tant que timide, c'est de me moquer de moi. Juste avant, là, le rendez-vous, j'ai vu une vidéo où il y avait une laverie sur Paris. Où en fait, il y a une porte dérobée qui amène à un bar. Et je dis, c'est génial, il faut appuyer sur le bouton de la machine à laver. En fait, c'est une porte et ça amène à un bar. Et je dis, je vais y aller, je vais faire une vidéo pour ma communauté et tout ça. Et je commence, je filme, je dis, vous allez voir, c'est génial, c'est incroyable. Et j'appuie et là, se fermer aujourd'hui. Et du coup, soit je dis, oh, j'éteins la vidéo et c'est la honte. Ou soit je leur montre et je rigole parce que... c'est pas grave, je me sens pas en insécurité. Et finalement, c'est plus justement on a ce lien avec soi, c'est plus de l'amour que de la honte, et plus on peut se permettre eh bien de s'ouvrir, de se montrer aux gens.
Comment tu arrives à switcher concrètement cet état intérieur? Ça se passe comment, à l'intérieur de quoi? Est-ce que tu te dis quelque chose? Est-ce que tu fais quelque chose? Décris-nous un peu ce processus.
Alors, il y a différentes choses. La première, c'est comment je perçois l'information. On appelle la neuroception, la capacité du corps à capter une information de sécurité ou d'insécurité. Mais ça, c'est inconscient. Et finalement, ce dont on a conscience, ça va être notre pensée ou notre émotion. Et du coup, dès que j'ai une pensée ou une émotion qui vient, maintenant, je l'observe, plutôt que d'y réagir tout de suite. Je l'observe. Et du coup, tout à l'heure, c'était « tiens, il est bizarre, lui ». Et alors qu'avant, ça passait comme ça, et puis il y avait une autre pensée qui arrivait, je dis « ah tiens ». Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te met en insécurité? Et en fait, je me suis entraîné très longtemps à me poser cette question. Qu'est-ce qui te met en insécurité? Et finalement, il y avait des réponses qui arrivaient. Et aujourd'hui, ça se fait de plus en plus rapidement. Souvent, je dis, on réduit en s'entraînant l'écart entre la réaction et la réponse. C'est-à-dire qu'on n'enlèvera pas nos réactions de survie. Et heureusement, parce que parfois, on en a vraiment besoin. Mais par contre, on apportera une réponse à cette réaction de survie. Et quand j'ai peur, le but, c'est pas de réagir et de me rassurer, c'est de savoir répondre à cette peur pour savoir voilà, qu'est-ce qui me met en insécurité.
Par exemple, quelqu'un qui est dans l'avion et qui a peur,
ouais.
Il voit sa peur, il voit bien que sa peur est en train d'arriver. Et donc, comment est-ce qu'il peut faire, là?
Ah, c'est tombé bien, parce que pendant 35 ans, j'ai pas pris l'avion à cause de ça.
Tu vois, j'ai dû le sentir.
Et
t'as plus peur maintenant?
Non, je me mets à côté du hublot. ma femme, à chaque fois, dit « Ah, t'as encore pris la place à côté du hublot. » Donc, ouais. Et non, j'ai plus peur. Alors, déjà, deux choses. La première, c'est qu'est-ce qui me met en insécurité? Bah, mourir. Voilà, je pense que c'est tout le monde un peu la même chose, c'est de mourir. Une fois que je suis dans l'avion, de quoi je suis responsable? Je suis pas responsable de piloter l'avion. Par contre, je suis responsable de mon état. Mmh. Et du coup, j'ai le choix d'être toujours en insécurité ou de revenir en état de sécurité. Et pour se libérer, parce qu'en fait, c'est le vrai mot, hein, c'est se libérer de ces mécanismes de survie, eh bien, j'accepte de mourir aussi. Et ça, c'est des fois, c'est pas évident. Mais j'accepte de mourir et de donner la responsabilité à des gens qui pilotent l'avion. Mmh. Et finalement, alors la première fois, j'avais encore un peu peur. Mais c'est un discours interne à mettre en place, petit à petit.
Mais là, ça fait mental, en fait. Quand on entend ça, ça fait... je parle à une partie de moi. Mais est-ce que c'est physique aussi?
Oui, parce qu'en fait, comme c'est une boucle entre le corps, le cerveau qui retourne au corps, eh bien, à ce moment-là, dans les outils qu'on donne, on va aussi pouvoir utiliser la respiration en même temps. On va pouvoir aussi savoir où sont mes tensions. Et puis après, il y a le travail plus de fond sur des libérations au niveau de nos fascias. Là, aujourd'hui, j'ai ramené un outil dans ma gamme d'outils, c'est l'hypnose narrative. Des choses comme ça qui vont faire que, eh bien, on va parler au corps. Mais ne serait-ce que de dire, j'ai identifié trois états en moi et je vais leur parler. Même si c'est que mental, dans un premier temps, au moins, je sais à qui je parle. Je parle à mon dorsal, je parle à mon sympathique. Et ensuite, eh bien, moi, je sais que mon dorsal, c'est une respiration quasi inexistante. Donc, je vais reprendre une respiration de ventrale. Donc, la cohérence cardiaque, c'est parfait pour ça. Mmh. C'est une respiration qui est très ample. Et puis, je vais voir si j'ai des tensions dans mon corps pour me détendre. Et finalement, je vais accompagner ce travail mental avec, justement, un travail du corps qui me permet de me détendre et me dit, c'est OK, de toute façon, voilà, si je monte dans l'avion, je prends le risque de mourir. Et si je meurs, de toute façon, je peux rien faire. Donc,
Oui. C'est comme ça.
Oui.
C'est assez stoïque, finalement. Il y a un côté, dans l'exemple qu'on donnait, mais peu importe. Les thérapies psychocorporelles permettent de faire ça. Je pense évidemment à la somatopsychopédagogie lancée par Dany Bois, que j'ai reçu aussi dans ce podcast. Je pense à la psychologie biodynamique aussi, typiquement, où il y a un travail à nouveau de toucher corporel. Ça permet vraiment de libérer ces tensions et de ramener à une forme d'homéostasie, finalement, du nerf vague.
Oui, parce que, en fait, tous ces outils, souvent, moi, des fois, j'ai des gens qui me disent on le savait déjà, mais c'est juste qu'on apporte une grille de lecture de ces trois états. Et finalement, tous les coachs que je forme, il y en a beaucoup qui me disent, mais c'est comme si ça créait une base dans laquelle je vais pouvoir utiliser mes outils en conscience. Hein, c'est-à-dire qu'on va chercher un état. Plutôt que d'essayer de me libérer de quelque chose ou
de me débarrasser.
Je vais aller chercher un état. On peut utiliser l'EFT, on peut utiliser plein de techniques aussi comme ça énergétiques dans lesquelles en fait, si je ne sais pas ce que c'est le ventrage, je peux pas y aller. Donc, du coup là, on apporte en plus une grille de lecture de qu'est-ce que je ressens dans mon corps dans ces différents états. Et ensuite, je vais utiliser tous les outils qui existent sur le marché pour pouvoir m'y rendre.
C'est vrai que j'ai fait un podcast là sur la psychologie biodynamique. Je ne sais pas si tu l'as entendu ou si vous qui nous écoutez, vous l'avez entendu avec Marc Brami sur la digestion des émotions à travers ce mécanisme du psychopéristaltisme qu'elle aurait découvert, Gerda Boysen, qui était norvégienne, qui est décédée maintenant, mais que vraiment il y a une forme de digestion des émotions qui se fait à ce niveau-là, au niveau de toute la sphère intestinale et digestive. Ça rejoint, c'est très proche finalement.
Bien sûr, parce que ce dorsal qui est là vraiment pour mettre, on va dire, c'est un peu le couvercle sur la marmite là qui nous protège, eh bien, est relié directement aux intestins et tout ça contribue en fait à nous maintenir en survie parce que le rôle de l'être humain et de notre corps et notre cerveau, c'est pas de nous rendre heureux, c'est de nous garder en vie. Et finalement, il va utiliser plein de stratégies pour nous garder en vie. Et s'il y a des choses qui nous font souffrir, eh bien, il va tout faire aussi pour pouvoir, eh bien, garder justement des tensions dans le corps, nos traumas aussi, il va les garder. Et il y a tout le travail de Peter Levine aussi qui est hyper intéressant parce que j'aime bien ce qu'il dit quand il dit que toutes ces traumas,
qui a beaucoup travaillé sur les cuirasses émotionnelles.
Oui, exactement, ouais. Tous ces traumas, ils sont gardés dans le corps et finalement, le corps contribue à maintenir ces tensions pour éviter que ça explose. Et en fait, tout ce qui est psychosomatique et toutes ces tensions qu'on peut avoir dans le corps, eh bien, c'est un moyen aussi de nous protéger pour éviter que ça sorte d'un coup et là, on ne saura pas le gérer.
Donc, il faut être en mesure ou se sentir prêt pour attaquer ce sujet-là.
C'est ça, et c'est pour ça que cet état de ventral, il est idéal, puisque c'est le seul qui est en lien. Et ça nous permet de, notamment, moi j'ai beaucoup travaillé avec mon passé, de retourner dans mon passé en ventral. C'est comment je peux voir, avoir une perception des choses de mon passé avec un état différent. Et finalement, on perçoit les choses différemment.
Quels sont les exercices que tu recommandes le plus en ventral? Tu as parlé beaucoup de la cohérence cardiaque, donc ça c'est vraiment un outil à recommander pour stimuler le ventral. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre?
Alors, en termes de respiration, il y a aussi des choses très simples, qui est par exemple le soupir intentionnel, de faire 3 grands soupirs intentionnels, mais parce qu'on le fait naturellement. Hein,
C'est-à-dire vraiment j'expulse surtout, j'expire?
Ouais, j'inspire le plus possible et j'expire pareil le plus possible.
D'accord.
Et parce que si on imagine qu'on doit prendre un bus et que ce bus il est à 30 mètres, qu'il est en train de mettre le moteur, qu'il démarre, on va activer notre sympathique là pour courir, on tape, le chauffeur nous ouvre, on monte dans le bus, on s'assoit et la première chose qu'on fait c'est...
Ouais, soulagement.
Et en fait, c'est quoi? C'est notre système nerveux qui nous régule. On n'a plus besoin de ce sympathique et il nous remet dans un état de sécurité. Donc, le soupir intentionnel est un moyen justement de réguler notre système nerveux. Donc, on a tout ce qui concerne la respiration. Ensuite, on va être tout ce qui concerne le lien avec le corps. On a des méditations conscientes du corps. C'est-à-dire qu'on va justement aller en méditation guidée. Et dans un premier temps, mais à l'intérieur du corps, pour ressentir sa colonne vertébrale, ressortir aussi certains endroits dans le corps particulier dans lesquels on peut avoir des tensions, afin de rentrer en contact avec ces tensions. Et puis, on a aussi tout ce qui va être yoga, pilates, parce que finalement, on parle de physiologie, et on a des nerfs sympathiques qui sont rassemblés au niveau du plexus solaire, on a ce qu'on appelle le psoas iliac, qui réunit le haut et le bas du corps, qui est hyper important, parce que s'il est tendu, ça envoie une information au cerveau que je peux pas fuir. Et si je peux pas fuir, je suis en insécurité. On a aussi tous les nerfs crâniens, avec des exercices tout simples pour vous se libérer des nerfs crâniens au niveau des cervicales, qui permettent, pareil, parce que si j'ai des tensions au niveau des cervicales, ça veut dire que je peux pas voir le danger. Donc tout ça, c'est des signaux d'insécurité qui me maintiennent dans cet état d'insécurité, sans même parler de notre passé, uniquement physiologiquement.
Comment tu vis, toi, aujourd'hui, maintenant que tu as fait tout ce travail vis-à-vis de toi? Ça a vraiment changé ta vie?
Oui, parce que du coup, j'ai l'impression que tout est possible, que chaque jour est une surprise, en fait, hein, et que je m'apprête à ces surprises. Et ce qui est venu, c'est vraiment, alors que je voulais moi-même créer ma vie, tout seul, tu sais, pour dire qu'est-ce que je veux dans la vie. Et bien finalement, j'ai découvert que c'était plutôt de la co-création. Parce que il y a plein de choses dans la vie et comment moi je peux créer des liens avec tout ça pour co-créer. Et du coup, entre moi tout seul et moi et toute l'abondance de la vie, c'est quand même complètement différent pour pouvoir justement atteindre des objectifs, des rêves, peu importe. Mais j'ai fait beaucoup de travail sur cet égo-système justement. Pour pouvoir justement éviter trop d'objectifs et éviter d'être guidé par mon ego qui veut me protéger.
Intéressant. Ce sera ma dernière question. Comment est-ce que l'hypersensibilité est gérée dans cette théorie polyvagale? Est-ce que les hypersensibles sont un terrain particulier pour un système?
Oui, parce que J'ai beaucoup travaillé justement avec l'hypersensibilité, HP et l'hypersensibilité.
Au potentiel, oui.
Oui, voilà, au potentiel.
Les zèbres, les fameux zèbres.
Exactement. Hein. Eh bien, c'est comme s'il y avait toutes les portes qui étaient ouvertes, avec toutes ces informations qui arrivaient. Et finalement, c'est ce flot d'informations qui représente de l'insécurité. Et le fait de pouvoir justement un petit peu réguler tout ça avec ces états internes, hein, et de pouvoir de temps en temps couper et fermer les portes.
Les vannes, oui.
Voilà, et de pouvoir se mettre en dorsal, justement, parce que souvent les hypersensibles vont avoir du dorsal subi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'isole. Mm. Hein. Alors que là, non, je vais le choisir pour pouvoir faire le tri, accepter, laisser venir, laisser passer, pour que je ne sois pas tout le temps en train de prendre toutes ces informations. Hein, c'est un flot d'informations tellement important que je n'arrive pas à le gérer. Donc, je vais faire un peu mon système nerveux à faire la police pour éviter justement que tout le monde vienne sur la même autoroute.
Hmm. C'est de la régulation émotionnelle.
Ouais,
là, je pense aussi à la méthode Tipeee, évidemment.
Oui, bien sûr, qui est très liée. Oui.
Hmm. Qui est très liée avec Luc Nicon. On a fait un beau podcast aussi sur le sujet. Ludovic Leroux, merci infiniment de nous avoir éclairé sur la pleine confiance, la théorie polyvagale. On peut te retrouver sur tes réseaux, hein, c'est très facile. On tape Ludovic Leroux, coach, ou même pas, on tombe sur toi. Et sur le site à confirmer, hein, www.pleine-confiance.com. Merci infiniment.
Avec grand plaisir. Merci à toi.
Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.